Europe 1, 14h-15h.
Clap. Margot Barallon.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. 100 grands films de réalisatrices, c'est le titre d'un livre de Véronique Lebris qui vient de paraître aux éditions Arte et Grunt. Et aujourd'hui dans Clap, nous avons justement voulu nous pencher sur ces femmes qui s'emparent du cinéma depuis plus d'un siècle. Que nous raconte-t-elle? Existe-t-il des films de femmes, un regard féminin? Comment les réalisatrices ont-elles permis de faire émerger de nouveaux sujets, de forger un autre imaginaire? Je vous raconte tout ça en début d'émission et la réalisatrice Anne Fontaine sera ensuite mon invitée. En fin d'émission, place au débat des critiques autour des dernières sorties DVD, VOD et sur les plateformes. On parlera de Strange But True sur OCS, de la sortie en DVD de The Nightingale, et de deux films disponibles sur MyCanal, Madré et En Avant des studios Pixar. Voilà pour le programme de Clap et tout de suite notre récit sur les femmes réalisatrices.
Europe 1. Le récit.
Quand on parle des pionniers du cinéma, on pense évidemment aux frères Lumière. À leurs deux très courts métrages, la sortie de l'usine Lumière à Lyon et l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Nous sommes en 1896 et les frères Lumière viennent, selon les historiens, d'inventer le 7e art. Pourtant, cette même année, une certaine Alice Guy tourne La Fée aux Choux. 51 secondes en noir et blanc, la première réalisation féminine de l'histoire du cinéma, mais surtout le tout premier film de fiction. Pourtant, aucun livre d'histoire ne parle d'Alice Guy et des plus de 200 films qu'elle a réalisés jusqu'en 1907. Il faudra attendre 2018 pour qu'un prix porte le nom de celle qui a tout de même découvert les ralentis, le fondu ou le gros plan. Et elles sont nombreuses, les grandes oubliées de l'histoire du 7e art. Germaine Dulac, pionnière du cinéma expérimental, ou Lotte Reininger, qui a signé le premier film d'animation européen avec les aventures du prince Ahmed, sont elles aussi passées à travers les mailles de la mémoire collective. Aujourd'hui, à l'ère post-MeToo, alors que le féminisme et la parité ne sont plus censés être des gros mots, il y a toujours très peu de femmes réalisatrices. À peine 10% aux États-Unis, 25% en France. Pendant la nouvelle vague, certaines ont su montrer leur légitimité et obtenir la reconnaissance de la profession. Mais on les compte sur les doigts d'une main. Agnès Varda en fait partie. En 1955, elle réalise son premier long-métrage, La Pointe Courte, avec Philippe Noiret et Sylvia Montfort. En 1962, son deuxième film, Cléo de 5 à 7, est acclamé par la critique.
Il connaît tout Paris et vous allez bien ensemble, il est assez grand pour cela.
C'est un égoïste.
Pour cela, oui, madame, mais tous les hommes sont des égoïstes et le vôtre aussi. Moi qui suis si douce avec lui, toujours bien mise, bien peignée. Je suis trop bonne pour les hommes. Pour ça, oui, madame, vous ne les faites pas assez souffrir.
Mais reconnaissance ou pas, il reste très difficile d'être une réalisatrice dans ce milieu si masculin. Agnès Varda l'expliquait en 2005 au micro d'Europe 1.
J'avais déjà fait en 54, j'avais eu cette idée folle de faire un film. C'était du culot, j'avais pas fait d'école, c'est vrai que j'avais jamais été assistante. Je suis une vraie autodidacte, un peu piquée, je dirais, à l'époque. J'ai failli gifler un journaliste américain quand Cléo de 5 à 7 était sorti. Il avait dit en anglais, cette petite femme est un grand homme. Je voulais lui casser la gueule parce que je ne suis pas un homme, j'aurais pas voulu être un homme, donc voilà quoi.
Chantal Akerman, elle, marquera le cinéma français dans les années 70 et 80. En 1975, à seulement 24 ans, elle réalise Jeanne Dillman, un film de plus de 3 heures plongé hyper réaliste dans le quotidien d'une femme. On voit l'actrice Delphine Seyrig faire le lit, laver la vaisselle et éplucher des pommes de terre, coincée dans une vie étriquée.
On a reçu une lettre de tante Fernande du Canada. Je te la lis. Chère Jeanne, cher Sylvain, nous avons une belle chambre d'amis et Sylvain pourra dormir avec son cousin. Peut-être que nous pourrons te faire rencontrer quelqu'un. Jack dit que tu devrais te remarier. Il dit qu'une belle femme comme toi ne devrait pas rester seule. Ça fait maintenant plus de 6 ans que Georges est mort. Nous savons que tu es très courageuse. Enfin voilà, Jack va bientôt rentrer et je dois encore mettre la table. Alors je te laisse et je vous embrasse bien fort tous les deux. Votre sœur et tante Fernande qui vous aiment.
Jamais les femmes au foyer n'avaient été filmées ainsi. Preuve que la présence d'une femme derrière la caméra ne change pas uniquement les chiffres sur la parité du métier. C'est aussi une question de choix des sujets traités, de manière de filmer. La journaliste Véronique Lebris, autrice de l'anthologie « 100 grands films » de réalisatrice, l'expliquait sur Europe 1.
C'est une autre façon de voir les femmes, c'est-à-dire de ne pas les sexualiser à outrance en fait en permanence, de ne pas en faire des objets de désir et de sexuel, et de pas qu'ils ne soient pas dans une stratégie de séduction du mâle qui, lui, a le rôle le plus important. En fait. Donc c'est une façon différente de voir les femmes, c'est-à-dire comme elles sont dans la réalité. C'est des femmes actives, des femmes qui pensent, des femmes qui peuvent faire tout un tas de choses, etc. et qui ne sont pas simplement l'objet du désir d'hommes un peu lubriques, quoi, en fait.
En 1993, une Néo-Zélandaise va elle aussi donner à voir les femmes d'une autre façon au cinéma. Dans La leçon de piano, Jane Campion raconte l'histoire d'Ada, jeune femme muette, veuve et passionnée de musique, qui débarque en Nouvelle-Zélande pour épouser un homme qu'elle n'a jamais vu. Non seulement Jane Campion montre la domination des hommes sur le personnage d'Ada, mais elle fait de son héroïne la maîtresse de ses désirs, qui les exprime et va jusqu'à les négocier.
Ada, attendez. Attendez, vous savez, marchander, vous pourriez reprendre votre piano. Vous voulez le reprendre ? Je voudrais faire un marché. Il y a des choses que j'aimerais faire pendant que vous jouez. Si vous me laissez faire, vous pourrez le racheter. Qu'est-ce que vous en dites ? Une visite pour chaque touche.
Petit tremblement de terre, cette représentation d'une femme qui n'est plus un objet, mais un sujet, va conquérir la planète. Jane Campion arrache la Palme d'Or au Festival de Cannes. Elle est encore aujourd'hui la seule femme à l'avoir obtenue. Mais il n'y a pas que le cinéma d'auteur qui est très masculin. C'est le cas aussi des films plus grand public, même les comédies romantiques, un genre dont la cible est pourtant plutôt féminine. Les codes de la séduction, de l'idéal masculin et même de ce que les femmes recherchent sont donc établis par des hommes. D'ailleurs, le maître de la comédie romantique dans les années 80 et 90, c'est Gary Marshall, à qui l'on doit Just Married, Valentine's Day et bien sûr Pretty Woman.
Pourquoi vous prenez des places en hauteur si vous avez le vertige ?
Parce que ce sont les meilleurs. Mm. Autre chose, monsieur ?
Non, merci.
Voici vos jumelles, passez une bonne soirée.
Oh. Donc, vous disiez que c'est en italien ? Mais alors comment je vais savoir ce qu'ils disent, moi ?
Faites-moi confiance, vous comprendrez tout. La musique parle d'elle-même.
C'est Nora Ephron ou encore Nancy Meyers qui vont se réapproprier le genre. En 2000, la seconde réalise « Ce que veulent les femmes », l'histoire de Nick qui découvre un matin qu'il peut entendre les pensées de toutes les femmes autour de lui.
Vous savez, Freud est mort à 83 ans sans réponse à cette question. Qu'est-ce que veulent les femmes ? Ça ne serait pas étrange et merveilleux que vous soyez le seul homme sur la Terre à pouvoir répondre enfin à cette question. Je ne sais pas comment ni pourquoi ça vous est arrivé. Mais il se peut que vous soyez l'homme le plus chanceux de la Terre. Imaginez les possibilités qui s'offrent à vous. Si vous savez ce que les femmes veulent, vous êtes le maître.
Le regard des réalisatrices est essentiel, car il vient combler un vide. Il propose une complémentarité à laquelle le spectateur n'est pas habitué. Par exemple, très peu de films montrent l'accouchement. Même chose pour le viol, souvent montré d'un point de vue masculin, donc érotisé, voire analysé comme un désir sexuel refoulé. En 1978, la réalisatrice Yannick Bellon tourne « L'amour violé ». Pour la première fois, le viol est filmé par une femme qui en montre toute l'horreur et s'attarde sur le traumatisme de la victime. Un exemple supplémentaire de la spécificité du regard féminin pour Véronique Lebris.
Dans les années 70, hein, il y avait quand même tous ces mouvements féministes, donc c'est un peu la résultante de ça. Et les réalisatrices, elles ont été cantonnées à la marge dans le cinéma. Du coup, elles ont besoin d'être plus audacieuses, en fait, pour au moins pour sortir du lot et puis pour tenter de réussir à faire leur film. Et donc, effectivement, elles sont toujours à l'avant-garde des courants, à l'avant-garde de ce qui va se faire après. Et puis, elles traitent de thématiques qui ne sont jamais abordées par les hommes parce que ça les concerne moins, tout simplement. Hein.
Mais ce regard est encore minoritaire et surtout peu reconnu. Depuis la création des Oscars, seulement 7 femmes ont été nommées dans la catégorie meilleur réalisateur, dont 2 pour la prochaine édition le 25 avril. Une seule a remporté la statuette, Catherine Bigelow, pour Des mineurs en 2010.
Combien de bombes vous avez désarmées ?
Je sais pas vraiment, monsieur.
Sergent ?
Oui, monsieur.
Je veux une réponse.
873, monsieur.
873 ! 873 ! Et quel est le meilleur moyen de s'y prendre pour désarmer un de ces engins?
C'est d'y survivre, monsieur.
Elle est bonne. Vraiment, vous êtes un phénomène.
En France, avec les Césars, ce n'est arrivé qu'une fois aussi, en 2001. Tony Marshall triomphait pour Vénus Beauté, avec notamment Audrey Tautou et Nathalie Baye.
Mais qui a oublié de passer la commande?
Moi, sûrement.
Quand quelqu'un oublie quelque chose, c'est moi, non?
Je ne vous demande pas vos états d'âme, je pose une question.
Vous savez ce qu'ils vous disent, mes états d'âme? J'en ai marre de travailler ici. Je vous trouve autoritaire et complètement bidon. Vous êtes qu'une commerçante. Vous passez votre temps à compter vos boîtes et vos échantillons. Vous savez que j'ai mon diplôme d'infirmière, moi. Alors je vais retourner travailler à l'hôpital parce que là-bas, au moins, il n'y a pas de superflu. Alors vous pouvez compter sur moi jusqu'au 31 décembre. Le 1er janvier, je ne serai plus là.
Toni Marshall, décédée l'année dernière, racontait sur Europe 1 son parcours de femme réalisatrice.
Alors, je vais repartir un peu en arrière. Oui. Je crois que j'aimais le cinéma. Je faisais un peu de montage, j'étais un peu assistante.
Ah, déjà ?
Oui, j'avais envie, j'étais sur les plateaux. J'avais un rapport au cinéma qui était bien plus large que celui d'une actrice. Et par ailleurs, j'étais pas excessivement photogénique. Et il y avait un rapport comme ça dans les films à l'époque où quand il fallait être drôle, il fallait être un peu moche. Et je sais pas pourquoi, ça me déplaisait. Je trouvais qu'il y avait pas de raison et que voilà. Et alors après... Je crois que je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis la première et pour l'instant la seule à avoir reçu le César du meilleur réalisateur-trice.
Sa récompense donne un nouvel espoir. Dans la foulée, plusieurs réalisatrices se lancent dès le début des années 2000 ou persévèrent dans un milieu qui commence à les écouter. Catherine Corsini, Claire Denis, Isilde Lebesco ou plus récemment Céline Sciamma, acclamée pour son portrait de la jeune fille en feu. Ce regard féminin ne fait pas seulement émerger des films différents. Le cinéma façonne aussi notre façon d'être, de nous comporter dans la vie. C'est ce qu'explique Iris Bray, universitaire et critique de cinéma sur Europe 1.
Les images, le cinéma font partie de la manière dont on apprend à désirer. Et comme la majorité des films nous montrent que la manière de désirer, c'est à travers la domination du corps féminin, on apprend que c'est ça le désir et on apprend que c'est aussi ça le plaisir. Donc il faut prendre conscience de la manière dont les femmes sont filmées. Et il faut que de manière collective, on s'interroge sur comment est-ce qu'on peut apprendre à désirer, par exemple, à égalité quand on parle de rapport amoureux.
Prenons l'exemple des blockbusters qui rassemblent des milliards de spectateurs à travers le monde. Les femmes y sont presque toujours érotisées. Dans Meurt un autre jour, James Bond observe d'abord Halle Berry, la James Bond girl, avec des jumelles. Puis, alors qu'elle sort de l'eau en maillot de bain, la caméra la filme lentement, de haut en bas. La scène traduit clairement un rapport de force. Le masculin domine le féminin.
Magnifique point de vue.
Jacinta Johnson. Mes amis m'appellent Jinx.
Les miens m'appellent James Bond.
Il est intéressant de comparer ça avec Wonder Woman, autre blockbuster, mais réalisé cette fois par une femme. Patty Jenkins montre sa super-héroïne qui sort d'une tranchée et affronte une pluie de balles. Les seuls gros plans sont sur son lasso et sur ses bottes pour souligner sa puissance. Patty Jenkins a dû se battre pour conserver cette scène que les producteurs ne comprenaient pas. Ironie de l'histoire ou juste retour des choses, c'est devenu une séquence iconique du film, largement utilisée pour en faire la promotion. Les réalisatrices investissent donc tous les genres, tous les films. Mais existe-t-il vraiment un cinéma féminin ? Comment faire pour que le travail des réalisatrices cesse d'être invisibilisé, que leur parcours ne soit plus celui du combattant ? Pour en parler, je reçois dans un instant Anne Fontaine, scénariste et réalisatrice à qui l'on doit entre autres Nettoyage à sec, Coco avant Chanel ou Les Innocentes. Mais avant, un peu de musique sur Europe 1. On écoute la bande originale de Wonder Woman, évidemment, To Be Human de Sia. Under rich, right under skies, that big city heights, I felt you walk right through me. You're the thing that I invoke, my old persistent ghost, sent to make me crazy. And oh, it's hard.
Too bad.
doesn't make it any easier to live with. What's the point of knowing it if you can't change it? You can't change it. Just cause I predicted this doesn't make it any easier to live with. What's the point of knowing it if you can't change it? You can't change it.
So if your mind is too loud, even more and it gets too much, I'm not ready to give up.
Tour dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma et qui s'intéresse aujourd'hui aux femmes qui ont fait le 7e art. Pour en parler, j'accueille la réalisatrice et scénariste Anne Fontaine. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez réalisé 17 films, le 18e s'apprête à sortir bientôt, on l'espère. Le premier, c'était en 92. Les histoires d'amour finissent mal en général. Est-ce qu'il existe, selon vous, Anne Fontaine, un cinéma féminin ?
Je pense que, en fait, de faire un film pour un réalisateur, c'est un peu une façon d'être transgenre, d'une certaine façon, de pouvoir incarner ou s'incarner dans des personnages masculins ou féminins. Et j'ai eu la chance, quand j'ai commencé, il y avait déjà des réalisatrices importantes qui avaient fait leurs preuves, même si je suis quand même une femme quelque part. Mais je pense que c'est le point de vue de quelqu'un, d'une personnalité qui est le plus fort, en fait, dans la décision de faire un film.
Et le fait de, par exemple, si je prends votre propre filmographie, qui est très éclectique, vous avez tourné à la fois des comédies, un biopic, des thrillers aussi, mais on retrouve une constante, vos personnages féminins, qui sont souvent très forts, qui s'émancipent. Vous filmez sans limite leurs désirs, par exemple. Ça, pour vous, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez une femme ?
Ah bah non, ça évidemment tout a à voir avec le fait que je suis qui je suis et un des paramètres c'est d'être une femme bien évidemment, mais c'est assez je trouve simpliste et caricatural même de dire tiens il y a un personnage fort de femme c'est une femme réalisatrice qui l'a conçue. Je pense par exemple que beaucoup de metteurs en scène hommes aussi en font. C'est réducteur, voilà, et de catégoriser, je trouve, le cinéma. Moi, j'ai jamais été, depuis le début, à des festivals, par exemple, qui concernaient que les femmes. Je trouve que c'est une façon de catégoriser, oui. Des films. Ce qui est important, c'est les films. Mais bien sûr, le fait que je sois une femme fait partie de mon travail.
Vous avez commencé donc en 90. Et est-ce que ça a été difficile de s'imposer à l'époque en tant que réalisatrice ? Vous avez aussi été témoin un petit peu du sexisme du milieu.
Écoutez, j'ai commencé de manière comme une autodidacte que j'étais et que j'ai toujours été. Donc, je n'avais que mon scénario comme preuve de mon désir de faire de la réalisation. J'ai été assez chanceuse parce que j'ai été aidée par des hommes qui ont cru en moi. Le premier étant Jacques Audiard, qui était scénariste à l'époque et qui a lu mon scénario et m'a incité en fait à le réaliser moi-même en disant que, parce que moi je pensais pas passer à la réalisation, je pensais être scénariste et réussir à vendre ce scénario. Et puis, il m'a présenté des producteurs. Alors, il y en a certains qui ont été un peu dubitatifs, mais c'était plus parce que je n'avais pas d'expérience. Mm-hmm. Disons, parfois, il y a, chez les techniciens, il y a un peu plus parfois d'ironie quand je ne savais pas très bien comment me débrouiller d'une situation. Et c'est vrai que il y a cette phrase qui est amusante de dire que quand une femme réalisatrice hésite, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, alors que quand un homme réalisateur hésite, c'est qu'il pense. Mais c'est plus une formule que j'ai pas senti de sexisme à mon endroit. Bon, je dis pas que toutes les expériences sont comme la mienne, mais je me suis sentie portée par des hommes qui ont cru en moi.
Anne Fontaine, vous avez aussi filmé la sexualité des femmes dans plusieurs de vos films. Je pense par exemple à Nathalie ou à Perfect Mothers. Perfect Mothers, c'est l'histoire de deux femmes d'âge mûr, deux mères qui vont entretenir une relation amoureuse chacune avec le fils de l'autre. Est-ce qu'avant de filmer ces scènes intimes, vous réfléchissez au regard que vous allez porter dessus, à ce que vous aimeriez montrer de la sexualité féminine ?
En fait, heureusement, je réfléchis un peu avant, parce que c'est des scènes toujours délicates à tourner et à construire avec les acteurs ou les actrices. Mais là, c'était intrinsèque. Cette femme incroyable qui est Doris Lessing, qui est donc l'écrivain qui a écrit la nouvelle de Perfect Mothers, qui s'appelait Grand-mère, quand je l'ai rencontrée à la fin de sa vie, m'a conduite à aller dans cette sensualité, cet érotisme qui fait partie du sujet du film et qui était incroyablement provoquant pour une femme. Elle a écrit ce roman, cette nouvelle à 85 ou 6 ans. Et donc c'était très tonique de voir cet écrivain qui, à l'époque, quand je l'ai vu, avait déjà 90 ans et plus peut-être, parler de la sensualité, de l'érotisme. Et c'était un film très stimulant à faire parce que ces deux femmes avaient une relation très, très, très proche, de grande proximité à tous les niveaux.
Justement, ce regard, Anne Fontaine, vous avez commencé comme actrice, il faut le rappeler, dans les années 80. Et vous avez des mots assez durs par rapport à cette expérience où vous vous sentiez scrutée. Vous m'arrêtez si je me trompe, c'était une expérience assez inconfortable. Maintenant que vous êtes passé de l'autre côté, derrière la caméra, est-ce que vous faites attention à ce regard que vous avez en tant que réalisatrice, cette fois, sur vos comédiennes ?
C'est-à-dire que moi, quand je dis le mot scruté, c'est parce que je me sentais espionnée par la caméra et j'avais pas un rapport facile avec cet engin qui se rapproche de votre visage et qui cherche à traquer des émotions intérieures. Donc ça m'a beaucoup appris sur le métier d'acteur. Moi, je n'étais pas faite pour ça. Donc en fait, puis j'ai été dans des films pas très intéressants où on exploite effectivement le physique, la sensualité un peu bébête. Voilà, j'ai fait des films pas très stimulants, disons. Mais cette expérience d'avoir été moi-même actrice m'a servi vraiment, je crois, à diriger des acteurs aujourd'hui.
Et peut-être aussi à écrire des rôles un peu moins bébêtes que les rôles...
Un peu moins stéréotypés, oui.
Merci beaucoup Anne Fontaine d'avoir répondu aux questions de Clap.
Je vous en prie.
Et on attend donc la sortie de votre prochain film, Président, avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois. J'imagine que vous êtes comme nous, vous n'avez pas de date de...
Si, j'en ai une.
Ah.
Le 27 juin.
Très bien. Eh bien donc, nous découvrirons Président fin juin. Merci beaucoup Anne Fontaine. Dans un instant, j'accueille mes collègues critiques pour notre débat hebdomadaire. Nous parlerons de Strange But True, film disponible sur OCS, de la sortie en DVD de The Nightingale, de Madré sur MyCanal et En Avant, film d'animation Pixar également sur la plateforme de Canal+. On se retrouve juste après une courte pause.
Clap. Margot Barallon fait son cinéma sur Europe 1.
De retour dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Fabrice Leclerc, journaliste critique à Paris Match, et Thierry Chaise, rédacteur en chef de Première, viennent de me rejoindre dans ce studio. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors comme chaque semaine, nous allons ensemble conseiller, déconseiller peut-être, décrypter en tout cas les sorties cinéma en DVD, VOD et sur les plateformes. Aujourd'hui, on s'intéresse à Strange But True, film inédit sur OCS, à The Nightingale, disponible en DVD, et à deux films à retrouver sur MyCanal, Madré et En Avant. Alors, je vous propose de commencer avec Strange But True, un thriller réalisé par Rowan Atheil.
Je t'aime.
Moi aussi, je t'aime. Mélissa ?
Ça doit vous sembler assez étrange que je débarque comme ça après toutes ces années. La nuit où il est mort, il y a 5 ans. Une sorte d'étrange miracle s'est produit. Ce bébé qui bouge en moi est l'enfant de Ronnie.
Fous-la immédiatement dehors.
Alors l'histoire, c'est donc celle de Mélissa, une jeune femme qui vient annoncer à sa belle-famille qu'elle est enceinte de Ronnie, son petit ami. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que Ronnie est décédé dans un accident 5 ans plus tôt. Mélissa jure pourtant qu'il est bien le père, elle n'a eu aucune relation avec personne d'autre depuis. Évidemment, tout cela est très mystérieux, mais est-ce que ça fait un bon film, Thierry Chaise ?
Ça fait un bon début de film. Ça fait un très bon début de film.
Je suis assez d'accord avec vous.
À la fois parce que tout paraît possible, qu'on est dans un... quelque chose de très réaliste, mais on se dit le fantastique peut arriver à tout moment, qu'on se dit, tiens, ça va être aussi sans doute un film sur l'Amérique où les anti-avortements sont très forts, donc on a le sentiment de tout ça. Donc, en fait, je crois qu'on se fait d'abord son propre film, et là, ce réalisateur en fait un, et alors là, plus ça va, moins ça va, et je ne vais pas révéler la fin, mais c'est au-delà du crapoteux et du grand guignol, c'est presque une parodie. Donc, en fait, comme s'il y avait eu deux réalisateurs, celui qui, au début, a construit l'histoire, et puis un deuxième scénariste qui, à la fin, la résout. Et ça fait quelque chose, une mauvaise série Z, à la fin, malgré la présence de Margaret Qualley, qu'on avait tant aimé dans le film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, mais c'est vraiment très déceptif par rapport à l'entame du film.
Oui, c'est cette bascule dans le thriller qui est assez mal gérée, je suis assez d'accord. Fabrice Leclerc.
Non, mais c'est le postulat du film, le postulat de départ du film est extrêmement bien. Oui, une femme qui arrive et qui dit « voilà, je suis enceinte de votre fils disparu, ça fait juste 5 ans qu'il est mort ». Et c'est un jeu de piste, et c'est vrai que le début du film est un jeu de piste. Alors on en a déjà vu des films comme ça, avec un twist toutes les 5 minutes, et puis on voit bien qu'on va explorer les rapports entre la mère et le frère resté vivant. Il y a un couple de petits vieux, là aussi on se dit, voilà, allez, explorons toutes les pistes. Et c'est exactement ce que dit Thierry. À un moment, on se dit, bon, toutes les pistes ont été déjà résolues, donc ça va être quand même un truc, un bon truc. C'est totalement ridicule. Voilà. Ouais, et puis ce qui manque à ce film, c'est un film intéressant, hein, et c'est vrai que sa première partie est assez captivante. Ce qui manque quand même, pour moi, c'est de la perversité, quoi. C'est la perversité de cette situation, la perversité de personnages qui ne sont pas assez, la perversité de relations qui devraient l'être beaucoup plus. Voilà. C'était un beau projet, et ça aurait été un beau scénario s'il avait été bossé jusqu'à la fin. Tout
c'est simple. Un peu dommage aussi pour ce casting. On a cité Margaret Qualley, mais les autres sont aussi très bons. Le jeune Nick Robinson, notamment. Ouais. C'est vrai que c'est un peu dommage.
Et puis ça, ce petit côté du cinéma américain, un peu exploratoire, psychologique, c'est intéressant, sociétal. C'est très intéressant de voir cette Amérique-là. Mais bon, malheureusement, arrêtez au bout d'une heure.
C'est ça, malheureusement, c'est un peu raté. Donc, Strange But True, à voir sur OCS. Alors, on va rester dans cette thématique disparition tragique avec Madre, film espagnol cette fois, réalisé par Rodrigo Sorogoyen.
Comment ça se fait qu'une espagnole se retrouve ici pendant 10 ans ? Les enfants, vous en avez pas ?
Si, mi amor, si, si, mi amor, si.
Vous êtes pas française ? Espagnole ?
Ouais.
Ah ouais ? Vous savez que je parle espagnol ? Yo me llamo Jean.
On part direction les Landes où Elena, une jeune femme espagnole, travaille dans un bar sur une plage. Alors en réalité, elle est là depuis 10 ans, depuis que son fils a disparu sur cette même plage, alors qu'il était en vacances avec son père. Un jour, Elena rencontre Jean, un jeune adolescent qui vient passer ses vacances d'été ici avec ses parents. Jean qui lui rappelle beaucoup son fils, beaucoup trop d'ailleurs. Alors moi, je vais être très honnête, c'est un des films que j'ai adoré l'année dernière. Fabrice Leclerc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
Oui, parce que Sorogoyen est sûrement un des plus grands metteurs en scène de la jeune génération. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, voyez El Reno, qui est un film absolument prodigieux. C'est un très très grand metteur en scène. Alors là, il part dans un cinéma plus respectueux, un cinéma plus d'auteur. Il reste une mise en scène absolument brillante, parce qu'il ne se passe quand même pas grand-chose dans le film. Mais ce pas grand-chose est filmé d'une manière totalement géniale, avec une idée par séquence, vraiment. Le film est très beau, et c'est beau, parce qu'il y a aussi une petite incidence avec Strange But True, dont on parlait avant, avec ces rapports étonnants de qui est qui et de doublement de personnalité. Après, voilà, pour moi, c'est peut-être un film un peu en dessous de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, parce que très dans la norme, parce que très auteur, un peu mou parfois. Bon, après, ça reste un très très beau film, très très touchant, c'est vrai, avec cette petite chose qui m'ennuie un peu. Ce petit bémol.
Thierry Chaise.
Oui, j'avais aussi ce bémol, mais c'est un film qui a très bien vieilli. Alors au départ, ça part d'un court-métrage. qu'il avait réalisé, qui est toute l'entame du film, en fait, qui est le moment où cette mère est au téléphone avec son fils qui est sur la plage et elle entend qu'il se passe quelque chose. Le court-métrage s'arrêtait là. Bon, c'est remarquablement joué quand même. Il faut dire que ça, c'est vraiment un atout de la part de tout le monde. J'ai parfois un peu plus de mal quand c'est joué en français, parce que comme ce n'est pas sa langue natale, je trouve qu'il y a quelques petites
faussetés. Oui, l'actrice principale s'appelle Marta Nieto, elle est espagnole.
Elle est dingue. Elle est absolument dingue, je trouve, de bout en bout. Et oui, j'avais été un peu déçu par rapport à ses pleurs. Et en même temps, arriver à tenir, pour le coup, cette histoire qui vraiment tient, le résumé tient en une phrase, sur cette durée-là, moi, je ne me suis pas trop ennuyé. C'est quand même du haut niveau. Et c'est un film qui a, par exemple, très bien vieilli. Moi, je pense que j'avais été aussi un peu déçu comme Fabrice, parce que les précédents, je les avais adorés et qu'on revenait sur un terrain... Voilà,
il manque la fougue
mais ce moi, la fougue de la mise en scène me suffit.
Mais elle est là.
Elle est là, mais si vous n'avez pas vu El Reno,
j'ai vu El Reno, je le conseille aussi, et je conseille également la série de Rodrigo Sorogoyen, Antidisturbios, à voir sur MyCanal, et donc Madre est aussi à voir sur MyCanal. On se retrouve très vite pour la dernière partie de Clap. Nous parlerons de la sortie DVD de The Nightingale, et puis d'un film d'animation en avant, disponible sur MyCanal. A tout de suite sur Europe 1.
Clap. Margot Barallon.
C'est la dernière partie de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et je suis toujours en compagnie de Thierry Chaise de Première et de Fabrice Leclerc de Paris Match pour passer au crible les sorties sur les plateformes en VOD et en DVD. Et depuis cette semaine, on peut justement trouver en DVD The Nightingale, film de la réalisatrice Jennifer Kent, dont voici un extrait.
J'ai commandé un récital à notre petit rossignol.
Laissez partir ma femme.
Elle est ma propriété. Alors je fais ce que je veux d'elle.
Je vais vous tuer, vous m'entendez? Je vais vous tuer, salopard!
Cette fille que vous avez violée, dont vous avez assassiné la famille, cette fille est morte. Et on ne peut pas tuer ce qui est déjà mort.
Nous sommes en 1825 en Australie, donc Australie qui à l'époque est une colonie britannique, et on va suivre la soif de vengeance de Claire, une jeune femme irlandaise. C'était une bagnarde, donc à l'époque les bagnards étaient envoyés en Australie, sur le point de racheter sa liberté pour vivre tranquillement avec son mari et leur enfant jusqu'à ce que sa famille soit exterminée dans des circonstances extrêmement violentes. Claire va donc poursuivre les responsables à travers la jungle de Tasmanie, film très marquant. Est-ce qu'il est marquant dans le bon sens, Thierry Chaise?
Ah oui, c'est impressionnant. Alors, avec le regret de ne pas avoir été à Venise en 2018 pour le découvrir sur un grand écran, mais bravo à l'éditeur Condor de permettre sa sortie en direct vidéo. Moi, j'ai été impressionné. Alors, par moments, j'avais envie de détourner le regard parce que c'est d'une violence assumée. Mais c'est une réalisatrice, Jennifer Kent, qui moi m'épate. Elle avait fait ce film qui s'appelait Badabou, qui était un petit bijou fantastique. Et normalement, quand on fait ça, on est récupéré par Hollywood et puis on va enchaîner la suite de Saw. Enfin, on fait 50 trucs. Elle grimpe encore. Là, c'est un revenge movie féministe qui va jusqu'au bout de la violence, on est parfois vraiment très terre à terre au sol. Et puis d'un seul coup, la caméra s'élève et on part dans le ciel et tout marche, absolument tout fonctionne. Avec de nouveau, là, vraiment le spectateur est pris pendant, moi en tous les cas, j'ai pris pendant 2h15, roulé dans tous les sens. Et puis cette actrice, Aisling Franciosi, qui est vraiment une révélation incroyable et qui aide à la fois à nous faire rentrer dans le film et qui nous fait souffrir encore plus parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va lui arriver tellement elle est dingue. Non, c'est vraiment un très grand film qu'il ne faut pas rater.
Oui. Fabrice Leclerc.
Là encore, on a affaire à une grande metteur en scène et on le voit tout de suite dès les premières images du film. On se dit, voilà, film d'époque. Alors, dans ce contexte que vous avez décrit, mais film d'époque, on est en Australie, on va avoir droit au scope, aux grandes plaines. Ah bah pas du tout. Ah non.
On est dans la jungle.
On est dans le bien carré, on est dans les pièces, on est dans la jungle et on n'est pas dans l'Australie fantasmée de Baz Luhrmann. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Malheureusement.
Voilà.
On y était.
Et voilà, un brio de mise en scène, une histoire assez étonnante, un méchant comme... Ouais. Je n'ai pas vu de méchant comme ça depuis des années au cinéma. Un film qui est tenu du début jusqu'à la fin. Ouais, une histoire de revanche. Il y a une scène de viol au début qui est insoutenable. La scène de la mort du père et du fils, c'est très très dur aussi. Moi, il y a juste un moment, mais c'est juste une question que je me pose et je n'ai même pas la réponse. Donc, vous voyez, c'est juste pour vous dire que, pour faire l'intéressant, je me pose la question sur la violence à un certain moment parce que dans ce film parfait, dans ce film tenu, dans ce film qui raconte plein de choses, il y a ce goût pour la violence qui, moi, parfois me paraît légèrement gratuit.
Ça frise avec le dolorisme,
voilà,
parfois, un petit
voilà.
peu.
On est quand même dans quelque chose, et à Venise, manifestement, ça fait trois ans quand le film a été projeté. Il y a des gens qui sont sortis, qui hurlaient, hein, il y a eu un scandale, et le film a été primé quand même. Voilà, j'ai juste cette question-là, mais voyez-le, interdit au moins de 16 ans quand même, hein, minimum.
Et là, justifié.
Et là, justifié, pour
voilà. Donc, si vous avez plus de 16 ans, jetez-vous sur The Nightingale, qui est donc sorti en DVD. Un peu de douceur après ce monde de brut avec En Avant, film d'animation des studios Pixar, disponible sur MyCanal.
Votre père tenait à ce que je vous le donne une fois que vous auriez tous les deux passé vos 16 ans.
C'est un bâton de magicien. Papa était magicien.
Quoi ? Cher Yann et Barley, vous devrez trouver le sortilège qui me fera revenir pour une journée. Ainsi, je pourrai voir ce que mes garçons sont devenus. Ramener à la vie ?
Mais non, ça se peut pas.
Si, ça se peut.
Je crois qu'il reste encore de la magie en chacun de nous.
Tu vas y arriver.
Alors, tout se passe en avant, dans un monde fantastique, mais où la magie a disparu. Donc, on a des centaures, des licornes, des dragons, mais qui vivent exactement comme nous, ou presque. Et les héros de l'histoire sont deux jeunes elfes, deux frères, Yann et Barley. Ils ont perdu leur père il y a longtemps, et pour son anniversaire, Yann reçoit la possibilité de le faire réapparaître le temps d'une journée. Pour ça, il faut juste qu'il récupère une pierre magique. Il se lance donc dans cette quête avec son frère Barley. Fabrice Leclerc, est-ce que vous êtes parti avec eux ?
Alors moi, je suis parti depuis que Pixar existe avec Pixar. Et cette fois-ci, je suis resté sur le quai. Ça m'arrive parfois avec Pixar et avec ce film-là, ça m'est arrivé. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous les ingrédients pour faire un super Pixar. Moi, normalement, Pixar, je pleure, je ris, je frissonne, j'adore ça. Là, il y a le shaker, tout a été secoué, mais la mayonnaise ne prend pas. Je trouve le film très opportuniste, qui ne m'émeut pas vraiment, que je ne trouve pas extrêmement bien écrit. Et Dieu sait si chez Pixar, on sait écrire des scénarios et des morceaux de bravoure. Voilà, tout petit Pixar.
Qui souffre peut-être de la comparaison avec Là-haut.
Avec Là-haut, avec Wall-E, vous pouvez tous le sortir si vous voulez. Mais il y a certains Pixar comme ça qui sont en dessous du niveau. Celui-là en fait partie. C'est une petite chose sympa, pas mal, mais ça manque vraiment d'ambition et ça manque surtout d'inspiration.
Thierry Chaise, vous êtes d'accord ?
Moi, j'étais très déçu. Moi, je trouvais ça très laid en plus. Vraiment, pour la première fois depuis longtemps, j'ai trouvé les créatures...
Mais pas les elfes, Thierry, c'est pour ça.
Non, mais vraiment, si on m'avait... Je me suis dit, tiens, quelqu'un a essayé de copier Pixar en moins bien.
C'est vraiment... Mais c'est exactement ça.
Et si je n'avais pas su que c'était Pixar... Moi, j'ai l'impression qu'on a... Moi, j'ai un peu perdu Pixar de... C'est ce qu'il avait dit au départ, on ne fera jamais de suite. Et puis finalement, on s'est tapé Cars, l'Indestructible, enfin voilà, Toy Story, on voilà. Donc là, on essaye de revenir à un truc original à ce moment-là. Simplement, ce truc original sur le tout ce qui est du deuil, ben, ils l'ont traité tellement un milliard de fois que. Alors je comprends que c'est compliqué de refaire quelque chose, mais là, vraiment, on ne peut en effet que penser, comme vous l'avez dit, à là-haut. Et ça fait mal, quoi. Et en plus, alors c'est pas désagréable, c'est vraiment. On ne va pas non plus fuir devant l'écran, mais. À partir du moment où c'est Pixar, forcément, on a une attente qui est supplémentaire. C'est drôle, à un moment, quand c'était le duel Pixar-Disney, on disait, tiens, Disney fait moins bien que Pixar. Ben maintenant, Pixar fait comme Disney avant, donc moins bien.
Donc
voilà.
Moins bien. Très bien. Eh bien, du coup, on ne vous conseille pas vraiment
avant. Si, si. Alors, ce qu'on fait, les parents regardent The Nightingale et les enfants regardent en avant.
C'est ça.
Moins de 16 ans, plus de 16 ans.
Donc, En Avant sur MyCanal, à réserver aux plus petits. Et pour les plus grands, on vous conseille le film The Nightingale, disponible en DVD. On vous a également parlé du film inédit Strange But True, pour sa direction la plateforme OCS, et de Madré, que vous pouvez voir sur MyCanal. Merci Fabrice Leclerc, journaliste cinéma à Paris Match. Et merci à vous Thierry Chaise, rédacteur en chef de Première.
Merci beaucoup.
Un grand merci aussi évidemment à Marjorie Adelson et Nicolas Baudin, qui réalisent, préparent cette émission, mais qui surtout font tellement pour l'enrichir. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 14h, pour un nouveau clap. Et vous pouvez bien sûr retrouver toutes les autres émissions en podcast et en intégralité sur Europe 1.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Europe 1.